Gloire à Dieu. On est en train de continuer notre petite étude sur le guide de prière. C'est sûr que c'est toutes des choses qu'on sait déjà, mais je crois que ça fait du bien de se les rappeler. Ça nous ramène, puis ça, faut toujours se répéter les mêmes affaires. Ça nous ramène les choses fraîches à l'esprit pour qu'on ait des sujets de prière. Le guide de prière, comme je vous le rappelle, c'est dans le but, justement, qu'on fasse des prières basées sur des promesses de Dieu, basées sur ce que Dieu nous demande déjà de prier, ou ce qu'on voit dans la vie de Jésus, la vie des apôtres, qui étaient déjà eux-mêmes en train de prier pour ces choses-là. Puis le fait de le savoir, mais ça nous donne de l'inspiration pour prier. La Bible nous le dit, on peut de prier par l'Esprit, mais de prier aussi avec l'intelligence. Puis par l'Esprit, c'est de se laisser diriger par le Seigneur pour qu'il nous inspire, nous conduise dans l'intercession. Mais prier avec l'intelligence, c'est aussi dans la volonté de Dieu qu'on prenne le temps de sortir les promesses de Dieu, sortir les versets qui parlent de prier pour ça, prier pour ça, prier pour ça. Ça, c'est intelligemment qu'on voit que le besoin est là. Dieu nous demande de prier. Puis quand tu pries selon sa volonté, qu'est-ce qui se passe? Il dit, quand on prie selon sa volonté, il nous écoute. Parce que Dieu n'écoute pas les prières qui sont pas selon sa volonté. Fait que si tu pries selon sa volonté, il t'écoute, puis on sait que s'il écoute quelque chose qui est demandé selon sa volonté, bien nous savons que nous possédons la chose qu'on a demandée. Parce que c'était déjà sa volonté. C'est extraordinaire quand on rentre dans cette idée-là, on peut prier avec assurance, avec confiance. Dieu l'a dit, prie pour ça. Si je prie pour ça, c'est sûr que Dieu va l'exaucer. Il a peut-être pas dit instantanément, faut pas se décourager non plus, mais persévérons dans la prière. Ce soir, le sujet qu'on va voir, c'est prions pour qu'il nous ouvre des portes dans l'évangélisation. Hey, c'est important l'évangélisation. Parce que on va le voir dans certains versets. Dieu nous demande de prier pour cela. Voulons-nous réellement l'avancement de l'œuvre de Dieu sur cette terre? Oui. Est-ce que c'est une chose qui nous préoccupe? Oui. Est-ce qu'on est toujours comme en soupir, puis en désir de vouloir qu'il y ait des gens qui acceptent le Seigneur? On pense tout le temps à notre famille, mais nos voisins, nos amis, nos compagnons de travail, le monde qui vit dans Bois-Arnois, le monde qui vit dans toutes les villes et les villages on est en train de voir une étude sur la mort. Puis quand t'es pas prête, vous allez voir comment ça sera pas beau pour ceux qui sont pas avec Jésus. Puis c'est important que le monde le sache, qu'il y ait au moins la grâce d'entendre le message de l'Évangile. C'est une priorité. Ça devrait être, si on a un peu de foi dans ce qu'on croit, si on croit qu'est-ce que Jésus dit, on va se dire, il m'offre d'être sauvé. Une fois que je le prends, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je fais un petit effort pour partager ce message-là à d'autres? Mais le Seigneur, il va nous parler par les versets qu'on va sortir ce soir. Dans Matthieu 6, le verset 9 à 10, ça va répondre à notre idée, voulons-nous réellement l'avancement de l'œuvre de Dieu? Puis Jésus a montré à ses disciples comment prier. Puis il commence, voici donc comment vous devez prier. C'est Jésus qui parle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que remarquons-nous dans le début de la prière du Notre Père? Il dit que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Jésus a enseigné à ses disciples de prier puis de faire passer en premier les besoins de Dieu. C'est pas nos besoins, là. C'est tous les besoins de Dieu pour que son nom soit sanctifié, son règne vienne puis que sa volonté soit faite. Ça, là, c'est en train de nous parler comment c'est important de placer l'œuvre de Dieu en premier dans notre vie. Quand Jésus dit dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume et la justice, les autres choses vous seront données. Mais de faire passer Dieu en premier, voulons-nous, la question était, voulons-nous réellement l'avancement de l'œuvre de Dieu sur terre? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Mais il faut commencer à prier pour que les choses de Dieu s'accomplissent, comme que son nom soit sanctifié. Comment son nom peut être béni, sanctifié, glorifié dans ce monde si le monde ne le sait pas? On veut parler que le Seigneur nous ouvre des portes, l'évangélisation. On veut que le Seigneur nous ouvre les portes, l'évangélisation, dans le but que les gens entendent, dans le but que les gens prononcent le nom de Dieu, puis sanctifient le nom de Dieu, puis qu'ils donnent leur vie à Dieu, puis que son règne va avancer, puis qu'ils se mettent à obéir au Seigneur. Donc, sa volonté va être faite sur la terre comme au ciel. Voyez-vous, pour que cette prière-là soit exaucée, faut qu'il y ait de l'évangélisation. C'est ça que ça dit. Il faut que la parole soit annoncée, que le monde le sache, qui après ça, ils vont pouvoir sanctifier le nom de l'Éternel. Ils vont pouvoir, ils vont vouloir donner le vœu au Seigneur, puis ça, c'est le règne de Dieu qui avance, puis sa volonté va être faite sur la terre comme au ciel. C'est important pour Jésus, quand il était sur la terre, là, c'est important pour Jésus l'évangélisation. Jésus, là, il a regardé une foule, là, puis il s'est mis à broyer. Il s'est mis à pleurer, il était ému de compassion pour une foule qui était là devant lui. Puis pour lui, tout ce monde-là, il avait de l'air comme des brebis sans berger. Tu sais, du monde, là, ils savent pas où ils s'en vont, puis ils savent pas quoi faire, puis ils ont toutes sortes de problèmes, ça va mal. Puis Jésus, quand il les a regardés, les gens, ils ont touché les entrailles de Jésus, puis ça l'a fait pleurer. Jésus a de la compassion pour les gens qui savent pas où ils s'en vont. Dans Matthieu 9, 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Voyez-vous, c'est à quoi son cœur à Jésus? Aller partout, prêcher dans les synagogues, puis prêcher la bonne nouvelle du royaume, guérissant toute maladie, toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Il s'est mis à pleurer en regardant la foule, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Jésus, ça l'affecte. Puis Jésus, pour régler ce problème-là, il leur prêchait la bonne nouvelle du royaume, puis il guérissait les personnes. Puis là, au verset 37, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Là, il dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. » Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Puis, il a appelé les 12 disciples, puis il leur donna le pouvoir de chasser les esprits et de guérir toute maladie, toute infirmité. Jésus, il regardait le monde, il s'est mis à pleurer, puis lui-même, il faisait tous ses efforts pour annonçait la bonne nouvelle, il dit, il parcourait toutes les villes, tous les villages, il enseignait dans les synagogues, fait qu'il était dans les villes, dans les villages, dans les synagogues, puis il prêchait le royaume, puis il guérissait le monde, puis il faisait tous ses efforts pour pouvoir répandre la bonne nouvelle aux gens qui n'avaient de besoin. En réalité, tout le monde n'avait de besoin. Puis là, après ça, il dit à ses disciples une chose qui est là, un sujet de prière. « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » On est dans... J'ai prêché l'autre jour que le royaume des cieux est semblable à un maître de la maison qui va chercher des ouvriers pour travailler à sa vigne. Mais là, il dit, c'est pas dans une vigne qu'il veut qu'on travaille, c'est dans la moisson. Qu'est-ce que ça fait des moissonneurs?
Ça sème.
Non, les moissonneurs, ils ne s'aiment pas, eux autres. Ils récoltent. Les moissons, c'est de ramasser ce qui a poussé. C'est de couper le blé, c'est de couper le blé d'Inde, tu ramasses. Parce qu'il veut nous donner une vision que c'est le temps de ramasser, puis qu'il y a besoin d'ouvriers pour ramasser. Il y a besoin de personnes qui sont envoyées pour aller. Il dit, priez qu'il y en ait encore plus, la moisson est grande. Il y en a du monde à aller chercher. Mais on ne cueille pas chaque épi qui arrive parce qu'il ne donne pas tout lui au Seigneur. Déjà, ici au Québec, dans la terre où ce qu'on est, c'est dur, c'est un sol qui est dur, mais quand même, il y en a qui acceptent la preuve, on est là. Mais il y en a une minorité. Mais il y en a. Puis Jésus, s'il y en a encore 20 à aller chercher ici, mais il faut aller chercher, il faut y trouver. Puis pour les trouver, il faut semer. Puis pour semer, il faut qu'il y ait des ouvriers qui y aillent pour aller les rencontrer, pour aller porter des pamphlets, parler de Jésus, puis de tout faire pour essayer de les rejoindre. Je dis 20, mais il y en a peut-être 100, il y en a peut-être 1000, on ne sait pas. L'important, c'est d'être dans son champ en train de travailler à la moisson, voyez-vous. Il dit « Priez pour qu'il y ait des ouvriers ». C'est un bon sujet de prière. On charge de quoi? Si on prie pour ça, Jésus va l'exaucer. Ça fait partie de sa volonté. À deux reprises, Jésus a demandé de la prière pour l'évangélisation. Dans ce passage-là, c'est juste avant d'envoyer les 12 apôtres. Puis dans l'autre passage, dans Luc, au chapitre 10, les versets de 1 à 3, Jésus répète presque la même affaire. Il dit, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples. Il les envoya deux à deux devant lui, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Puis là, il donne des recommandations. Mais l'idée, si Jésus l'a demandé au moins deux fois, puis il a envoyé les 12 en premier, après ça, il en a envoyé 70. Puis la différence qu'il y a entre les deux, c'est que la première fois, Jésus est en train de parcourir lui-même les villes et les villages, puis de faisant le travail lui-même, puis après ça, il a envoyé les 12. Tandis que là, un peu plus loin, il y avait d'autres personnes qui avaient été cueillies, il y en avait 70. Là, il a envoyé les 70 dans les villes et les villages que lui-même devait aller, voyez-vous? L'expansion, il s'est passé de quoi? Il y a eu du monde qui a accepté le Seigneur. Il y a eu du monde qui ont suivi le Seigneur et se sont engagés à aller dans mission, d'aller évangéliser. Puis ça s'est fait en pas grand temps, peut-être un 6 mois, un an, un an et demi de différence entre les deux événements. Puis il y avait au moins 70 personnes qui sont parties aller évangéliser. Tout ça pour dire qu'en peu de temps, des personnes peuvent être formées pour aller avec la mission, avec la vision d'aller semer la parole de Dieu, parler de Jésus, parler de ce que Jésus a fait dans ta vie, essayer d'amener des gens au Seigneur. Même si tu ne sais pas toute la doctrine, dans un an et demi, tu penses avoir assez pour pouvoir dire au monde comment faire pour être sauvé. Puis la mission, là, pas la mission, la promesse, la prière que Jésus demande, là, dans les deux versets, « Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Il en envoya 70, puis il n'avait pas encore assez. Ça en prend d'autres. Puis à mesure qu'en rentre d'autres, il faut lui donner la vision, il faut aller semer la parole. Puis on fait tout ce qu'on peut, dans toutes les manières possibles et imaginables. On s'implique de toutes les façons pour pouvoir y aller. Puis on va atteindre les gens autour de nous. Nous voulons voir les gens sauvés. Cela tombe bien, car Dieu aussi le veut. Dans 1 Timothée 2, 1 à 4, Paul, quand il a parlé à Timothée, il est en train de lui donner une vision justement pour c'est quoi la volonté de Dieu à propos du salut des gens qui nous entourent. Comment est-ce que Dieu voit cela? Paul, il dit, « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. » Tout ça, là, ces prières-là, pour qui qu'on doit prier? Pour tous les hommes. Prier pour tout le monde. Puis là, il rajoute, « Pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et en honnêteté. » Il dit, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à connaissance de la vérité. Comment est-ce que les gens vont y arriver à être sauvés et parvenir à connaissance de la vérité? Oui, mais la première affaire qui est dit de faire dans ce verset-là, avant toute chose, prier. Prier. J'exhorte donc avant toute chose. C'est avant de faire quoi que ce soit, là, prier. Faites des prières, des supplications, des requêtes pour tous les hommes. Parce que Dieu veut toutes les voir sauvées et qu'ils parviennent à connaissance de la vérité. Priez, 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 puis après ça, on va évangéliser en même temps, là, bien sûr. Mais priez avant toute chose, on prie. C'est pour ça que se décider de rajouter ça dans notre liste de prières, de prier pour l'évangélisation, puis que Dieu nous ouvre des portes, que Dieu touche les gens, tout ça, ça fait partie de la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on prie pour ça. On peut rajouter ça dans notre liste de prières, puis Dieu aime cela. Il dit qu'il trouve ça bon, puis il trouve ça agréable quand on prie pour le salut de ceux qui nous entourent. C'est ça qu'il dit dans verset 3. « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. » Dieu, quand il voit un chrétien en train de prier pour le salut de ceux qui l'entourent, il trouve ça extraordinaire, trouve ça bon, trouve ça agréable. Fait que si on cherche quoi faire pour plaire à Dieu, mettez-vous en prière pour le salut des âmes. Dieu il aime ça. Dieu trouve ça agréable. Parce que Dieu veut que tout ce monde-là soit sauvé puis qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Fait que prions pour continuons. On tanne pas Dieu de prier pour le salut des âmes de nos enfants, de nos familles, de nos voisins, de nos amis, nos compagnons de travail, les habitants de notre ville, les habitants de notre pays. On tanne pas Dieu quand qu'on répète puis on répète, hein? Puis notre président, dans notre pays, c'est le premier ministre du Québec, premier ministre du Canada, pour ceux qui passent des lois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, des maires, des juges. Tu peux prier pour tout le monde. Prier pour tous les hommes, que ça dit. Fait que notre liste, si on veut, on a pour prier à journée longue. Tu peux prendre le bottin téléphonique, puis commencer à te les passer un par un. Ça en a l'air. T'es dans le plan de Dieu, pareil. Dieu aime ça. Pour que les âmes soient sauvées, la parole de Dieu doit être annoncée. On prie, ça c'est la première affaire qu'on fait. Mais il faut aussi parler de la parole aux gens qui nous entourent. Dans Romains 10, le verset 14 à 15, on le ramène souvent ce verset-là dans les messages d'évangélisation, parce que c'est un verset clé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Hein? Si une personne ne croit pas, il invoquera pas. Comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Parce que là, il dit, il invoque pas Dieu parce qu'il croit pas, mais il croit pas en Dieu parce qu'ils n'ont même pas entendu parler. Le problème, il est là, là. C'est parce qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui n'a pas passé le message, parce que si la personne le saurait, elle essayerait tout de bien pour commencer, puis après, elle pourra, ça va aller mal dans sa vie, puis elle va se tourner vers Dieu, puis elle va crier pour avoir de l'aide. Mais si elle ne sait pas, elle ne demandera pas, Mais s'il y a du monde qui vont l'avoir, Dieu y exauce les prières. Puis la personne, ça peut l'amener à oser le faire, puis à pouvoir recevoir par la suite. On continue. Comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Ça, c'est un autre problème. Parce que qui va aller parler de Jésus à la porte l'autre bord? Là? Il y a une porte l'autre bord, n'importe quelle porte. Comment ces gens-là vont croire s'il n'y a pas quelqu'un de nous qui le sait, le message, puis qu'on va aller le dire? Comment est-ce qu'ils vont finir par le comprendre si personne ne va le dire? À qui revient la mission d'aller le dire? C'est un autre... Dans un sens, hein? C'est qui ont reçu la grâce, la bénédiction de recevoir déjà le cadeau, puis qu'on l'a, puis on est pleinement conscient de ce cadeau-là, c'est nous. Puis je pense que c'est comme le minimum de notre devoir, ça serait faire un effort d'essayer d'atteindre les gens, puis de leur parler de ce que Dieu peut faire dans leur vie. Puis ça, je pense, est à la portée de tout le monde. C'est juste la façon qu'on va s'y prendre pour y aller qui peut être différente, mais tout le monde peut s'impliquer. Mais quand on arrive l'autre bord, c'est sûr que Dieu va nous, il sait ce qu'on a fait, hein? On peut pas y cacher rien. Puis il va nous poser questions directes sur les choses que lui, il s'attendait. Hein? Il va nous dire, il pourra nous demander, moi je ne sais pas, je ne suis pas à sa place, puis je ne veux pas essouffler des réponses, mais il les a déjà toutes les questions. Hein? Il est bien plus intelligent que nous autres. Si nous, on peut s'apercevoir de certaines petites affaires, c'est sûr que Dieu, lui, il voue nos vies, puis il sait tout quoi nous demander, puis quoi nous dire qu'il aurait peut-être aimé qu'on fasse. Surtout s'il nous le dit déjà ici, puis on ne le fait pas. Je dis ça de même pour nous, qu'on prenne conscience que Dieu peut nous l'exiger. Il peut nous l'exiger, il nous dit, qu'as-tu fait? On va dire oui ou non, on l'a-tu fait ou on l'a pas fait? C'est pour ça qu'on, par la grâce de Dieu, qu'on met des efforts pour y aller. Hein? Ça fait déjà combien de fois qu'on fait le tour de notre ville? Plusieurs fois, on va le refaire encore. D'aller porter des pamphlets, on a fait du porte-à-porte, on a cogné à toutes les portes, on a parlé à beaucoup de personnes, mais on continue à semer, puis on a fait d'autres villes aussi. Puis il faut continuer, il ne faut pas se relâcher. Des fois, on pense, on est ben trop zélé. C'est pas être trop zélé, je pense qu'on fait rien quasiment comparé à tout ce qu'on pourrait faire. Des fois, je vois que ma vie, j'en cours beaucoup de temps à perdre. Voyez-vous, du temps que je perds, que je pourrais y aller encore plus. Mais on y va, mais on va y aller encore plus par la grâce de Dieu comme ça va, on va organiser, parce qu'il y en a encore de l'évangélisation qui s'organise. Là, on va attaquer Saint-Timothée le mois prochain. Cette semaine, c'est mardi prochain qu'on va commencer à préparer pour cette nouvelle distribution-là, pour aider l'église de Saint-Timothée. On va aller faire le porte-à-porte. Mais comment est-ce qu'il dit... Comment y en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Fait que là, s'il nous pose la question, c'est parce qu'il veut qu'on se questionne comment ils vont en entendre parler s'il n'y a personne qui prêche? Quelle réponse vous avez à dire là-dessus? Comment est-ce qu'ils vont en entendre parler? Il pose une question, là. C'est parce qu'il s'attend à ce qu'on se dise, je pense qu'il faut que j'y aille en parler. C'est ça qu'il voudrait qu'on réponde, l'apôtre Paul. Et comment il y aura des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Voyez-vous, tout ce petit bout de verset-là, là, quelques versets, nous parlent, nous responsabilisent, puis il faut y aller. Frères et sœurs, c'est nos familles, nos voisins, nos amis, nos compagnons, nos compatriotes, les habitants de la même ville, puis les villes environnantes. Ils ont besoin d'entendre parler de Jésus. Ils ne peuvent pas être sauvés sans cela. Prions le Seigneur d'ouvrir des occasions et le cœur des gens pour qu'ils la reçoivent. Parce que quand on est prêt à sortir, un bon sujet de prière, c'est de prier que Dieu rouvre des portes. Nous demandons-lui de nous en ouvrir des portes. Parce que tu peux être dans des moments, là, tu voudrais parler, mais tu sens pas que les portes s'ouvrent. Des fois, Dieu rouvre ta porte, puis là, ça se met. Il y a des questions qui se posent, puis c'est facile. Mais c'est Dieu qui rouvre des portes. Dans ce verset-là, dans Apocalypse 3:7, c'est ce que Dieu veut nous faire comprendre. Ça nous dit, « Écris à l'ange de l'Église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Jésus est celui qui ouvre puis que personne ne peut fermer. Jésus est celui qui ferme puis personne ne peut ouvrir. Fait que si Jésus nous ouvre quelque chose, il nous ouvre des portes, personne ne va les fermer, ça va être une porte ouverte, puis on va pouvoir y aller en courant, porter la parole, puis voir des âmes qui vont accepter. Mais il faut prier que Dieu nous ouvre des portes. C'est lui qui rouvre les portes, c'est lui qui a la clé de David. La clé de David, David, il représente le roi, la royauté. David était le roi d'Israël. S'il y a une clé à avoir, la clé de la ville appartient au roi. Puis Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Puis lui, il a la clé du salut des âmes de tout le monde. C'est grâce à Jésus que les gens peuvent être sauvés. Puis c'est Jésus qui rouvre les portes. Il faut croire que si on demande au Seigneur de nous ouvrir les portes, le Seigneur va nous ouvrir des portes. Puis il va y avoir des âmes qui vont accepter. Puis c'est juste lui qui peut le faire. Nous, on y va pour porter le message, mais c'est Dieu qui fait croître dans les cœurs. Paul le savait, puis il demandait des prières pour que Dieu lui ouvre des portes. Dans Colossiens 4, le verset 3-4, on voit encore un autre sujet de prière. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse l'annoncer, annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et de le faire connaître comme je dois en parler. Voyez-vous, Paul, même si on le voit comme si c'était un grand évangéliste, c'est un grand missionnaire, c'est une personne qui allait partout, mais la capacité ou le résultat, l'efficacité de son ministère à Paul, c'était pas dans sa capacité personnelle. Même si lui, il était partout, puis il y a une place, il nous dit qu'il a évangélisé l'Asie dans un an et demi. Il a évangélisé l'Asie au complet dans un an et demi. Le résultat de son évangélisation n'est pas grâce à ses talents. C'est grâce à Dieu qui rouvre des portes. Amen. Puis là, il dit, là, même si c'est un gars talentueux, zélé, il comptait pas là-dessus pour emmener des âmes au Seigneur. Il comptait pas sur ses capacités. Il disait, faut que Dieu rouvre des portes. Puis il demandait aux autres, priez pour nous afin que Dieu nous rouvre des portes puis que je puisse annoncer le message comme je dois en parler. Ça veut dire, si on se sent concerné puis on veut évangéliser, comptons pas sur nos capacités, là, pensons même pas que ça vient de nous. Pour que vous soyez capable, pour que je sois capable d'annoncer le message comme qu'il doit être annoncé, il faut que ça soit Dieu qui me fasse à travers de moi, parce que sinon, c'est zéro. Il va être zéro fruit. Fait qu'il faut prier Dieu qui nous rouvre des portes, puis que Dieu nous donne les paroles, puis que ça prend juste un mot qui vient du souffle de Dieu qui sort de notre bouche, puis ça va changer des vies. C'est le réma de Dieu, le souffle de Dieu qui va passer, la parole qui vient de Dieu qui va passer à travers notre bouche. C'est pas quelque chose qu'on a, nous, c'est quelque chose que Dieu peut faire à travers de nous. Puis quand Dieu va le faire, on va voir nos enfants sauvés, nos voisins sauvés, nos amis sauvés, les gens qui nous entourent sauvés, quand Dieu va le faire. on veut-tu voir cela? Amen. Prions pour l'évangélisation, que Dieu nous ouvre des portes. Un dernier verset. Paul voyait et rendait gloire à Dieu pour l'ouverture que Dieu faisait dans 1 Corinthiens 16, versets 8 et 9. Il dit, « Je resterai néanmoins à Éphèse jusqu'à la Pentecôte, car une porte grande et un accès efficace, mais ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Il n'avait pas peur de dire, « Les portes sont ouvertes, j'en profite, je suis là, puis je reste là, puis je continue à faire ce que j'ai à faire, parce que la porte est ouverte. » C'est Dieu qui a ouvert la porte, et dit, il y avait un accès efficace qui avait été ouvert. C'est fort. Dieu, il avait ouvert la porte, puis c'était efficace. Il y avait des hommes qui acceptaient Jésus. Il y avait un travail que Dieu faisait, mais il y avait aussi des adversaires. Il dit, les adversaires sont nombreux. C'est pas grave. Il regarde pas ça. Il regarde ce que Dieu faisait. Puis, il rendait gloire à Dieu en disant que la porte était grande. Puis, ça venait pas de lui. Ça, c'est sûr. Il priait pour que la porte soit ouverte. Puis, Dieu a ouvert des portes. Puis, il disait après ça, la porte m'a été ouverte. Puis là, c'est de rendre gloire à Dieu que Dieu rouvre des portes. Amen. Le message... Le titre était « Prions pour qu'il nous ouvre des portes dans l'évangélisation. Croyons que Dieu va le faire. » Amen.